Chapitre 17. Exécution. Le maître d'écurie Burick avait, durant les années qu'il passa à Castelserre, la réputation de posséder un don exceptionnel pour les chevaux, ainsi que pour les chiens et les faucons. Son savoir-faire avec les animaux était déjà légendaire de son vivant. Il avait débuté dans la vie en tant que simple soldat. On dit qu'il était issu d'une famille qui s'était installée en Orfond, et aussi que sa grand-mère était une esclave héréditaire qui avait racheté sa liberté à un maître de Terrilleville après lui avoir rendu un service extraordinaire. Soldat, son acharnement au combat lui valut d'attirer l'attention du jeune prince chevalerie. On raconte qu'il aurait dû se présenter devant son prince pour une question de discipline à la suite d'une rixe de taverne. Il servit un temps chevalerie comme partenaire d'exercice aux armes, mais son maître découvrit son talent avec les animaux et lui confia la charge des chevaux de ses gardes. Il s'occupait aussi des chiens de chasse et des faucons, et il finit par avoir la responsabilité des écuries entières de Castelserre. Sa connaissance des bêtes et de leurs maladies s'étendait au bétail, aux moutons, aux porcs, et il lui arrivait de soigner jusqu'aux volailles. Nul n'avait une meilleure compréhension des animaux. Gravement blessé lors d'une chasse aux sangliers, Burick garda une claudication dont il souffrit jusqu'à la fin de ses jours, mais qui parut modérer le tempérament vif et violent qu'on lui prêtait jeune homme. Il n'en est pas moins vrai qu'il conserva toujours un caractère qu'on hésitait à contrarier. C'est grâce à sa science des simples que l'on parvint à juguler l'épidémie de farineuse du mouton qui affligea les troupeaux de Béarn à la suite de la peste sanguine. Il sauva le cheptel de l'extinction totale tout en empêchant la maladie de s'étendre au duché de Serres. Une nuit claire sous les étoiles qui brillent. Un corsin qui dévale une colline enneigée en bonds exubérants. Sur notre passage, la neige tombait des buissons. Nous avions tué. Nous avions mangé. Tous nos appétits étaient rassasiés. La nuit claire était craquante de froid. Nulle cage ne nous retenait. Nul homme ne nous battait. Ensemble, nous connaissions la complétude de notre liberté. Nous nous rendîmes à la source qui jaillissait si fort qu'elle ne gelait presque jamais et bûmes de son eau glacée. Œil de nuit nous ébroua, puis renifla longuement. L'aube vient. Je sais, je n'ai pas envie d'y songer. L'aube, où les rêves devaient s'achever et où il fallait affronter la réalité. Tu dois venir avec moi. Mais je suis déjà avec toi, œil de nuit. Non, tu dois venir avec moi complètement. Tu dois lâcher prise.
C'était au moins la 20e fois qu'il me le disait aujourd'hui. Ses pensées étaient manifestement pressantes, son insistance évidente, et son obstination m'étonnait. Cela ne lui ressemblait pas de s'accrocher si fort à une idée qui n'avait pas de rapport avec la nourriture. Burick et lui avaient pris une décision. Je devais aller avec lui. Mais je ne comprenais absolument pas ce qu'il attendait de moi. Je lui avais expliqué sur tous les tons que j'étais pris au piège, que mon corps était dans une cage, tout comme lui-même s'y était trouvé autrefois. Mon esprit pouvait l'accompagner, pendant quelque temps en tout cas, mais je ne pouvais aller avec lui comme il me le demandait. Chaque fois, il me répondait qu'il le comprenait, mais que moi je ne le comprenais pas. Et voici que cela recommençait. Je le sentis se contraindre à la patience.
« Tu dois venir avec moi tout de suite, complètement. » Avant qu'on vienne te réveiller.
Je ne peux pas. Mon corps est enfermé dans une cage.
Abandonne-le !
S'exclama-t-il avec violence.
Lâche prise !
Quoi ?
Abandonne-le ! Lâche-le ! Viens avec moi !
Tu veux dire que je dois mourir ? Que je dois prendre le poison ?
Seulement si tu ne peux pas faire autrement. Mais vite, avant qu'il puisse te faire davantage de mal. Laisse-le et viens avec moi. Abandonne ton corps. Tu l'as déjà fait. Tu t'en souviens ?
L'effort que je fournissais pour comprendre ce qu'il disait me rendait conscient de notre lien. La douleur de mon corps maltraité s'y infiltrait. Quelque part, j'étais raide de froid et perclus de souffrance. Quelque part, les côtes m'élançaient à chaque respiration. Je m'écartais de ces sensations pour retrouver le corps sain et fort du loup.
C'est ça, c'est ça. Abandonne-le. Vas-y, lâche prise, lâche, c'est tout.
Et je compris soudain ce qu'il voulait. Je ne savais pas exactement comment m'y prendre, et j'ignorais si j'en étais capable, mais une fois en effet, j'avais délaissé mon corps,
et je le lui avais confié, je m'en souvenais, et je m'étais réveillé plusieurs heures plus tard aux côtés de Molly. Cependant, je n'avais aucune idée de la façon dont j'avais opéré, et les circonstances étaient différentes. Le loup avait gardé mon corps pendant que je m'en allais. Elle sait où. Aujourd'hui, je devais séparer ma conscience de ma chair, rompre volontairement le lien qui soudait l'esprit au corps. Même si je découvrais comment faire, ma volonté ne s'y opposerait-elle pas ? « Couche-toi et meurs », m'avait dit Burick.
« Oui, c'est ça. Meurs s'il le faut, mais viens avec moi. »
Je pris brusquement ma décision. Je devais avoir confiance. Confiance dans Burick. Confiance dans le loup. Qu'avais-je à perdre ? Je pris une profonde inspiration, puis m'apprêtai intérieurement, comme pour plonger dans une eau glacée.
« Non, non, lâche, c'est tout !»«
C'est ce que je fais. » Je tâtonnais en moi à la recherche de ce qui me retenait à mon corps. Je ralentis ma respiration. Obligeais mon cœur à battre moins vite. Je refusais les sensations de douleur, de froid, de raideur. Je m'enfonçais loin d'elle, tout au fond de moi.
« Non, non !» hurla Œil de Nuit avec désespoir. « Ferme-moi ! Viens vers moi ! Abandonne tout ça ! Viens vers moi !»
Mais j'entendis des frôlements de pieds et des murmures. Un brutal frisson de peur me traversa, et malgré moi, je m'en mitouflais davantage dans le manteau de Brondi. J'entrouvris un œil, et je vis toujours la même cellule mal éclairée, le même Judas Clos de barreau. Je sentis une angoisse glacée au fond de moi, plus insidieuse que la faim. Il ne m'avait cassé aucun os, mais, dans mes tréfonds, quelque chose s'était déchiré. Je le savais.
« Tu es revenu dans la cage !»
s'écria Œil de Nuit.
« Va-t'en ! Laisse ton corps où il est et rejoins-moi » !»«
C'est trop tard, » murmurai-je. « Sauve-toi, sauve-toi ! Ne partage pas ça !»«
Ne sommes-nous pas de la même meute ?»
Un désespoir aussi poignant qu'un long hurlement de loup. Ils étaient tout près. La porte s'ouvrit. La peur me saisit et me secoua entre ses mâchoires. Je faillis porter le poignet à ma bouche et mâchonner la boulette à travers le tissu de ma manche. Mais je me contentais de serrer la papillote dans mon poing en prenant la ferme résolution de ne plus y penser. Le même homme à la torche, les mêmes gardes, le même ordre.
« Debout !»
Je me débarrassai du manteau de Brondi. Un des gardes avait conservé suffisamment d'humanité pour blêmir devant le spectacle que j'offrais. Mais les deux autres demeurèrent de marbre. Comme je ne me levais pas assez vite à leur goût, l'un d'eux me saisit le bras et tira. Je poussai un cri inarticulé sans pouvoir m'en empêcher. Et cette réaction me fit trembler. Si j'étais incapable de me retenir de crier, comment allais-je maintenir mes défenses contre Guillot ? Ils me firent sortir de ma cellule et me poussèrent devant eux dans le couloir. Je ne puis dire que je marchais. J'étais courbattu de la tête aux pieds, et les coups avaient rouvert les blessures de mon avant-bras et de ma cuisse, dont la douleur était elle aussi revenue. La souffrance me faisait comme une seconde atmosphère. Je m'y déplaçais, je l'inspirais et l'expirais. Au centre de la salle des gardes, on me bouscula par derrière et je m'écroulais. Je demeurais couché sur le flanc. Je ne voyais pas l'intérêt d'essayer de me redresser. Je n'avais plus de dignité à sauvegarder. Mieux valait qu'on me crût incapable de tenir debout. Profitant de l'occasion, je m'efforçais de rassembler le peu de force qui me restait. Lentement, laborieusement, j'éclaircis mon esprit, puis j'entrepris de dresser mes défenses en vérifiant et revérifiant encore dans ma brume de souffrance les murailles d'art que j'avais érigées pour les consolider, pour me retrancher derrière elles. C'était elle que je devais défendre, et non la chair de mon corps. Des hommes étaient alignés le long des murs de la pièce. J'entendais le frottement de leurs bottes contre le pavage et leurs murmures, mais je n'y faisais guère attention. Le monde se réduisait à ma douleur et mes murailles. Un grincement, un courant d'air, une porte venait de s'ouvrir. Royal entra, Guillot derrière lui, irradiant la force d'art. Je sentais sa présence comme je n'avais jamais perçu celle de quiconque. Sans même me servir de mes yeux, je le voyais. Je voyais sa silhouette, la chaleur de l'art qui brûlait en lui. Il était dangereux. Royal le croyait un simple outil. J'osais éprouver une infime satisfaction à l'idée qu'il ignorait les périls d'un outil comme Guillot.
Royal s'assit dans son fauteuil et on porta une petite table près de lui.
J'entendis qu'on ouvrait une bouteille, puis je sentis l'odeur du vin que l'on versait. La douleur avait donné à mes sens une insoutenable acuité. J'écoutais Royal se désaltérer en refusant de faire droit à ma propre soif.
« Fichtre, regardez le don. Crois-tu que nous ayons été trop loin, Guillot ?»
Le ton malicieux de Royal m'informa qu'il n'avait pas pris que du vin. La fumée, peut-être, si tôt le matin. Le loup avait parlé de l'aube, mais jamais Royal ne se serait levé à l'aube. Mon sens de l'écoulement du temps devait être faussé.
Guillot s'approcha de moi à pas lents, puis se tint debout près de moi. Sans faire un mouvement pour voir son visage, je m'agrippai fermement à ma maigre réserve de force. Il me donna un méchant petit coup de pied du bout de sa botte, et un hoquet de douleur m'échappa. Presque au même instant, il projeta contre moi son arme, et là, au moins, je tins bon.
Guillot prit une courte inspiration, la relâcha, puis retourna auprès de Royal.
« Votre Majesté, vous avez infligé presque tout ce qui était possible à son corps sans risquer de dommages encore visibles d'ici un mois, mais il résiste toujours intérieurement. La douleur peut le distraire de ses défenses mentales, pourtant, elle n'affaiblit pas sa force d'art. Je ne pense pas que vous arriverez à le briser ainsi. »
« Ce n'est pas ce que je te demandais, Guillot !»
répliqua sèchement Royal. Je l'entendis s'agiter à la recherche d'une position plus confortable.
« Ah, oh, c'est trop long, mes ducs s'impatientent. Il faut le briser aujourd'hui même. »
D'un ton presque pensif, il ajouta.
« Presque tout ce qui était possible, dis-tu. Que proposerais-tu à présent ?»
« De me laisser seul avec lui. Je puis lui arracher ce que vous désirez. »
« Non !»
Le refus de Royal était catégorique.
« Je sais ce que tu désires, toi, Guillot. Tu le considères comme une outre pleine de force d'art que tu aimerais vider. Peut-être, lorsque tout sera fini, pourras-tu en faire ce que bon te semble, mais pas maintenant. Je veux qu'il s'accuse lui-même de parjure devant tous les ducs. Mieux, je veux qu'il rampe devant le trône en implorant merci. Je veux lui faire avouer les noms de tous ceux qui m'ont défié. C'est lui-même qui les désignera. Plus personne ne doutera quand il les dénoncera comme traîtres. Que le duc Brondy voit sa propre fille accusée, que toute la cour apprenne que la dame Patience, qui réclame si fort la justice, a elle-même trahi la couronne. Quant à lui, la chandelière, cette molly. »
Mon cœur fit un bond dans ma poitrine.
« Je ne l'ai pas encore retrouvé, monseigneur, » fit Guillot.
« Silence !»
donna Royal. On aurait presque cru entendre le roi subtil.
« Ne lui redonne pas courage. Il n'est pas utile qu'on la retrouve pour qu'il la déclare coupable. Nous aurons tout le temps de mettre la main sur elle. Qu'il aille à la mort en sachant qu'elle le suivra, trahi par sa propre bouche. Je nettoierai Castelserre depuis les fosses à Purin jusqu'au plus haut tour de tous ceux qui ont voulu me défier. »
Il leva sa coupe à sa propre personne et but une longue gorgée. Je songeais qu'il ressemblait tout à fait à la reine Désir quand elle était prise de boisson, moitié fanfaron, moitié couard gémissant. Il craignait ce dont il n'avait pas la maîtrise, et plus tard, il craindrait encore plus ceux qu'il tenait sous sa coupe. Il reposa son vin et s'adossa dans son fauteuil.
« Eh bien, continuons. Kelfry, relève-le. »
Kelfry était un homme compétent, qui ne tirait aucun plaisir de sa besogne. Et sans faire preuve de douceur, il ne se montra pas plus brutal que nécessaire. Il se plaça derrière moi et me prit le bras pour me faire tenir debout. Il n'avait pas été formé par Odd. Je savais qu'en rejetant violemment la tête en arrière, je lui briserais le nez et peut-être quelques incisives, mais cette manœuvre m'apparaissait à peine plus facile à réaliser que soulever le château lui-même. Je restai donc debout, les mains protégeant mon ventre, et je repoussais la douleur pour rassembler mes forces. Au bout d'un moment, je levai la tête et regardai Royal. Je me passai la langue sur les dents pour les décoller de mes lèvres, puis... « Tu as tué ton père. » Il se raidit dans son fauteuil, et je sentis l'homme qui me tenait se tendre. Je me laissais aller dans ses bras pour l'obliger à supporter mon poids. Ce sont Sereine et Justin qui ont commis le meurtre.
Mais c'est toi qui l'as ordonné,
murmurai-je. Royal se dressa d'un bond.
Nous avions néanmoins eu le temps d'artiser vérité.
Je forçai ma voix et je me mis à transpirer sous l'effort.
Vérité est vivant et il est au courant de tout.
Royal s'avançait vers moi, furieux, Guillot sur les talons.
Je tournai les yeux verts et pris un ton menaçant. Il sait tout sur toi aussi, Guillot. Il sait tout.
Le garde resserra sa prise sur moi, et Royal me gifla une fois, puis une deuxième fois. Je sentis la peau tendue de ma joue éclater sous l'impact. Royal ramena son poing en arrière. Je me préparais au choc, écartai de moi toute douleur, me concentrai. J'étais prêt.
Attention !
Hurla Guillot, et il se précipita pour projeter Royal de côté. J'en avais eu trop envie. J'avais artisé mes intentions. Comme Royal envoyait son poing vers moi, je m'arrachai à la poigne du garde, évitai le coup et me jetai sur lui. D'une main, je lui saisis la nuque et de l'autre, je tentai de lui écraser la papillote sur le nez et la bouche, dans l'espoir irréaliste de lui faire ingérer assez de poudre pour le tuer. Guillot m'en empêcha. Mes doigts enflés ne se refermèrent pas sur la nuque de Royal, et Guillot arracha le prince à ma poigne débile pour l'écarter violemment de moi. Comme l'épaule de Guillot me heurtait la poitrine, je changeai de cible et lui appliquai le papier imprégné de poudre blanche sur le nez, la bouche et les yeux. La plus grande partie du produit se dispersa dans l'air entre nous deux. Je l'entendis s'étrangler sur la poudre amère, puis nous nous effondrâmes ensemble sous l'assaut des gardes de Royal. J'aurais voulu m'évanouir, mais n'y arrivais pas. Je reçus une pluie de coups de poing et de pieds, et des mains m'écrasèrent la gorge avant que les
« Ne le tuez pas !»
éperdus de Royal parut s'intéresser quiconque à part moi. On me lâcha, puis on tira Guillot d'en dessous de moi, mais je n'y voyais rien. J'avais le visage ruisselant de sang et mes larmes s'y mêlaient. Ma dernière chance, et je l'avais laissé passer. Je n'avais même pas eu Guillot. Oh, bien sûr, il serait malade l'espace de quelques jours, mais il n'en mourrait sans doute pas. J'entendis les hommes échanger des propos au-dessus de son corps inanimé.
« Alors, emmenez-le chez un guérisseur !»
ordonna Royal pour finir.
« Voyez s'il comprend ce qui lui arrive. L'un de vous lui a-t-il donné un coup de pied à la tête ?»
Je crus qu'il parlait de moi jusqu'à ce que j'entende des bruits indiquant qu'on emportait Guillot. Ainsi, je lui avais fait avaler davantage de poudre que je ne l'imaginais, ou bien il avait reçu un coup au crâne. Peut-être avait-il inhalé du poison en hoquetant. J'ignorais quel en serait l'effet dans les poumons. Je sentis s'éloigner sa présence d'art avec autant de soulagement que si mes douleurs avaient connu un répit. Avec prudence, je relâchai ma vigilance et j'eus l'impression de me décharger d'un poids horriblement lourd. Une autre pensée me réjouit. Il n'avait rien vu, ni la poudre, ni le papier. Tout s'était passé trop vite. Peut-être même ne songerait-il au poison que trop tard.
« Le bâtard est-il mort ?»
demanda Royal d'un ton furieux.
« S'il est mort, je vous ferai pendre tous autant que vous êtes !»
Quelqu'un se pencha en hâte sur moi pour poser deux doigts sur ma gorge.
« Il est vivant !»
annonça une voix bourrue, presque maussade. Un jour, Royal apprendrait à ne pas menacer ses gardes. J'espérais qu'on le lui enseignerait d'une flèche dans le dos. Un instant plus tard, on me jeta un seau d'eau glacée en pleine figure. Le choc réveilla brutalement toutes mes douleurs. J'entrouvris un œil et j'aperçus de l'eau mêlée de sang sur le sol devant moi. Si tout ce sang m'appartenait, c'était très inquiétant. Les idées embrumées, je cherchais qui d'autre pouvait en avoir perdu autant. Mon esprit ne fonctionnait plus très bien. Le temps avançait par bonds. Royal se tenait debout près de moi, en colère, échevelé, puis il se retrouva soudain dans son fauteuil. Je ne cessais de m'évanouir. Lumière, obscurité, puis lumière à nouveau. Quelqu'un s'agenouilla près de moi et me palpa avec des mains compétentes.
Burick ?
Non. C'était un rêve d'il y avait longtemps. Cet homme avait les yeux bleus et l'accent nasillard de Bouge. Il saigne beaucoup, Sire Royal, mais on peut arrêter les penchements. On m'appuya sur le front, puis une coupe fut portée à mes lèvres fendues, et du vin coupé d'eau me coula dans la bouche. Je m'étranglai en buvant. Vous voyez, il est vivant. Il vaudrait mieux le laisser tranquille pour aujourd'hui, votre majesté. Ça m'étonnerait qu'il puisse répondre à la moindre question avant demain. Il s'évanouirait sans cesse. Une opinion professionnelle énoncée sur un ton calme. L'homme m'étendit à nouveau par terre et s'en alla. Un spasme me convulsa. J'allais avoir un accès de tremblement. Heureusement, Guillaume n'était plus là. Je n'aurais pas été capable de maintenir mes murailles dressées pendant une crise.
« Eh bien, emmenez-le !»
Royal, déçu et boudeur.
« Quelle perte de temps aujourd'hui !»
Les pieds de son fauteuil raclèrent le sol, puis j'entendis le bruit de ses bottes qui allaient décroissant. Quelqu'un me saisit par le devant de la chemise et me mit brutalement debout. Je n'eus même pas la force de crier ma douleur.
« Espèce de salétron !»
gronda l'homme.
« T'as intérêt à pas crever !» « J'ai pas envie de tâter du fouet parce qu'un rat comme toi aura claqué. »« Belle menace, Verdé !»
fit une autre voix d'un ton moqueur.
« Et qu'est-ce que tu lui feras une fois qu'il sera mort ?»« Écrase ! Tu risques autant que moi de te faire arracher la peau du dos. Allez, on le sort d'ici et on nettoie derrière lui. »
La cellule, le mur nu. Il m'avait abandonné par terre, le dos à la porte. C'était injuste. J'allais devoir me rouler de l'autre côté, rien que pour voir s'il m'avait laissé de l'eau. Non. C'était trop de peine.
Viens-tu maintenant ?
Je voudrais bien un œil de nuit, mais je ne sais pas comment faire.
Changeur ! Changeur, mon frère, changeur !
Y a-t-il ? Tu es resté longtemps silencieux.
Viens-tu maintenant ?
Je suis resté silencieux.
Oui. J'ai cru que tu étais mort sans d'abord venir à moi. Je n'arrivais pas à t'atteindre.
Sans doute une crise. J'ignorais que j'en avais fait une. Mais je suis revenu, œil de nuit, je suis là.
Alors viens à moi. Dépêche-toi avant de mourir.
Un instant. Je veux m'assurer que c'est ce qu'il faut faire. Je cherchais un motif de m'en abstenir. J'en avais eu quelques-uns, mais je ne me les rappelais pas. Changeur, m'avait-il appelé. Mon propre loup qui m'appelait ainsi, comme le fou, et Ambre me qualifiait de catalyseur. Eh bien, il était temps de changer la situation de Royal. Je ne pouvais plus faire qu'un seul et dernier geste, mourir avant que Royal brise ma volonté. Si je devais périr, je préférais le faire seul. Ainsi, je ne dénoncerais personne. J'espérais que les ducs exigeraient de voir mon corps. Il me fallut un long moment pour décoller mon bras du sol et l'amener jusqu'à ma poitrine. J'avais les lèvres enflées et fendues, les gencives douloureuses, mais je portais ma manche à ma bouche et trouvais la petite bosse que formait la boulette sous le tissu. Je mordis dedans le plus fort possible, puis m'appliquais à la sucer. Au bout d'un moment, le goût du carim déferla sur ma langue. Ce n'était pas désagréable, piquant plutôt. Comme le produit atténuait mes souffrances, je pus mâchonner ma manche avec plus de vigueur. Bêtement, je faisais attention au piquant de porc-épic. Je n'avais pas envie de me l'enfoncer dans la lèvre.
Ça fait vraiment mal quand ça arrive.
Je sais, une nuit.
Viens à moi.
J'essaye. Laisse-moi un petit moment. Comment fait-on pour abandonner son corps? Je m'efforçais de ne pas y penser, de n'avoir conscience de moi-même qu'en tant qu'œil de nuit. Le flair affûté couché sur le côté, occupé à grignoter un paquet de neige coincé entre les doigts d'une de mes pattes. Je sentais le goût de la neige et de ma patte tandis que je la mordillais. Je levais les yeux. Le soir tombait. L'heure serait bientôt propice à la chasse. Je me mis debout et m'ébrouai.
« C'est ça !»
fit œil de nuit d'un ton encourageant. Mais il restait ce fil, cette infime perception d'un corps raide et douloureux allongé sur un pavage glacé. Rien que d'y penser, je le sentis reprendre substance. Un tremblement le parcourut qui lui ébranla les os et les dents. Une attaque se préparait, une grave cette fois. Soudain, tout devint facile, le choix limpide. Abandonner ce corps-là pour celui-ci. Il n'était plus très efficace de toute façon, et il était enfermé dans une cage. Inutile de le conserver. inutile de demeurer un homme.
Je suis là.
Je sais. Allons chasser.
Et nous allâmes chasser.